chronique d'un autostoppeur. Mon tour du monde en 15 fois 15 minutes. Une émission mensuelle dépaysante proposée par Jérémy Fischer, écrivain biographe. Il vous emmène dans son périple de 15 mois, réalisé de février 2019 à mai 2020.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode. Aujourd'hui, nous allons entamer la traversée de l'Amérique du Nord, d'ouest en est. Ce périple de 2 mois et demi, d'une distance de 8000 km, nous occupera aussi pendant les 2 prochains épisodes. Au sommaire de celui-ci, le trajet Vancouver à Banff, puis en seconde partie, le parcours jusqu'à Emerson, à la frontière américaine, au sud de Winnipeg. Lorsque je passe la frontière canadienne au nord de Seattle, je suis accueilli par Suki. C'est un jeune Canadien dont les parents sont originaires d'Inde. Il est le premier ami que je me suis fait en voyage. Je l'ai rencontré 4 mois auparavant en Thaïlande. Il m'emmène en randonnée dans les montagnes environnantes. C'est l'occasion de bivouaquer dans un camping aménagé en pleine forêt. Vancouver est classé 3e au palmarès des villes où il fait le mieux vivre au monde. Son climat et ses espaces verts y sont probablement pour quelque chose. Je découvre la piscine en plein air de Kitsilano. Je n'ai jamais vu un bassin aussi long. Il fait 137 mètres, soit quasiment 3 piscines olympiques. Son eau salée provient de l'océan. Il faut plus d'1 million de litres pour remplir cette piscine hors du commun. Je pars vers le nord en autostop. À Squamish, je rencontre une jeune femme qui m'offre l'hospitalité pour la nuit. Je repars le lendemain vers Whistler. Je fais un trajet en voiture, puis m'installe à un arrêt de bus. En acceptant de me faire monter gracieusement, le chauffeur qui s'arrête m'offre ma première expérience d'autobus stop. Whistler est une ville très touristique. Elle a accueilli les JO de 2010. Aussi compte-t-elle de nombreuses infrastructures sportives. Il y a notamment des pistes très réputées pour faire du VTT. Les amateurs de sensations fortes viennent de loin, même des USA. Ne trouvant pas d'hébergement bon marché, je passe la nuit dehors. Je trouve un abribus à proximité du centre-ville. Je m'allonge sur le banc et m'emmitoufle dans mon sac de couchage pour affronter la nuit qui s'annonce fraîche. Cette expérience me donne une idée de ce que peut être la nuit d'une personne sans domicile fixe. D'un côté, ma présence est tolérée, on ne me cherche pas de noise et personne n'appelle la police. Et en même temps, au petit matin, je constate que les gens passent devant moi dans l'indifférence, sans me demander si j'ai besoin d'aide. C'est une sensation assez étrange qui questionne mes propres rapports au sans-abri. Je poursuis ma route vers l'est jusqu'à Ashcroft, une petite ville qui a souvent souffert d'incendies dévastateurs. Je suis logé chez Sandy. Cette femme généreuse met son camping-car à ma disposition le temps de mon séjour. Sa fille souhaite acheter une tente. Je les accompagne au magasin. Depuis ma rencontre avec Villeneuve en Californie et mes 2 expériences de nuit passées à la Belle Étoile dans le froid, l'idée de m'équiper d'une tente a fait son chemin. Initialement, je suis parti sans matériel de camping pour me déplacer plus léger. Mais je suis décidé à revenir sur ce choix. Dans le magasin, alors que j'ai trouvé une tente répondant à mes besoins, je suis pris d'une intuition. Je sens qu'il est inutile de l'acheter parce que je vais en trouver une prochainement. Je renonce à cet achat et poursuis ma route. Le lendemain, je lève le pouce dans des circonstances particulières. Un jeune couple d'étrangers voyageant en van a été retrouvé assassiné au nord de la Colombie-Britannique, l'état où je me trouve. Ça s'est passé à 1600 km de là, mais le ou les tueurs peuvent se trouver n'importe où. Je reste prudent et concentré, déterminé à continuer mon périple en autostop. Je monte avec Brad, un juriste de 66 ans qui a fait du stop en France en 1974. Aujourd'hui, il peut enfin renvoyer l'ascenseur à un Français qui lève le pouce au Canada. Entre deux trajets, je fais une pause musicale avec deux jeunes qui font aussi du stop, mais eux s'en vont au sud. Je poursuis ma route avec Shelly et Jeff. Ils peuvent m'avancer de 226 km. En arrivant dans leur patelin, Valmount, ils m'invitent à rester quelques jours chez eux pour découvrir la nature des environs. J'accepte. Jeff part dans sa cave et revient avec une tente qu'il m'offre en disant qu'elle me servira plus qu'à lui. C'est la tente Une Place des sapeurs-pompiers de Colombie-Britannique. Maintenant qu'il n'est plus volontaire, il n'en a plus besoin. Je suis ravi de ce cadeau qui tombe à pic. J'ai bien fait de suivre mon intuition la veille quand j'ai failli acheter une tente neuve. Le présent de Jeff est le plus beau que l'on m'ait fait pendant le voyage. En tout cas, c'est le plus utile. Jeff me montre comment l'installer. Mon attention est attirée par le nom du modèle de cette toile, Eureka. Ça me fait sourire, c'est dans la ville californienne d'Eureka que j'ai passé ma première nuit du voyage sous une tente, avec Vilner le Danois. Ça fait sens. Je profite des jours suivants pour randonner dans la nature sauvage environnante. Des ours sont signalés. Il faut être prudent sur les sentiers. Je repars vers Jasper avec un routier ukrainien. Grâce à ma nouvelle tente, je passe deux nuits en faisant du camping sauvage en pleine ville. La première dans un skatepark et la seconde dans un parc arboré. Je m'installe discrètement à la tombée de la nuit et repars à l'aube pour éviter les ennuis. J'ai décidé d'aller voir un glacier dont on m'a parlé, le Columbia Icefield. Il fait si froid que ce matin-là, je porte un poncho. Je me demande si quelqu'un va s'arrêter pour moi dans un tel accoutrement. Au bout d'une heure, je monte avec une jeune femme. Elle travaille justement sur le site touristique du glacier. Le paysage pour y aller est grandiose. La route est bordée de falaises et de forêts. Sur place, je randonne jusqu'à la limite du glacier. Sur plusieurs centaines de mètres, des panneaux signalent le recul de la glace au cours du siècle dernier. Tous les ans, celui-ci perd 5 mètres. Un exemple concret des effets du réchauffement climatique. Je parviens rapidement à repartir de ce site naturel. Je monte dans un grand pick-up où se trouvent 4 jeunes hommes au début de la vingtaine. À ma surprise, ils sont tous habillés pareil. Chemise rayée, jeans et bretelles. Ce sont des fermiers originaires de l'Illinois aux USA. Ils sont ménonites et voyagent pour la première fois à l'étranger sans leurs parents. C'est aussi la première fois qu'ils prennent un autostoppeur. Moi, je n'avais jamais covoituré avec des anabaptistes. C'est pour ça aussi que je fais du stop, pour faire des rencontres improbables et enrichissantes. Brian, Weldon, Arlene et Josh me proposent de passer la nuit sur leur emplacement de camping à 28 km de là. J'accepte sans hésiter, c'est dans ma direction. Super soirée avec eux au coin du feu. La soirée se termine par leur prière, très émouvante, au cours de laquelle ils remercient le Tout-Puissant de m'avoir mis sur leur chemin. Le lendemain, nous allons randonner ensemble à Lake Louise. J'immortalise le paysage en prenant quelques photos, mais eux n'en prennent pas une seule. Ils ont beau avoir des smartphones, leurs applications photos ont été désactivées. Leur religion leur interdit de prendre des photos ou de se faire tirer le portrait. C'est plutôt frustrant pour moi qui demande systématiquement aux gens rencontrés sur la route si je peux les prendre en photo. La religion des 4 Américains leur interdit également d'écouter de la musique, à part les chants a cappella. Ça paraît inconcevable aux mélomanes que je suis. Je leur parle des Stones et des Beatles, seuls deux d'entre eux connaissent ces artistes mythiques. Et encore, que de noms. I need somebody, help, not just anybody. So much younger than today. I never need.
is helping anyway. Now that now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Nous avons écouté Help des Beatles, paru sur leur album du même nom en 1965. Dans la seconde partie de l'émission, nous continuons la route vers l'Est. Je quitte mes amis Mennonites à Banff, d'où je repars en levant le pouce. J'arrive à Calgary, la quatrième plus grande ville du pays, dans la province de l'Alberta. Je souffre d'un lumbago depuis quelques jours. J'ai besoin d'un toit pour me reposer. Heureusement, je rencontre Nathalie qui m'offre l'hospitalité. Lorsqu'on voyage sur une longue période, il est important de se ménager des moments de pause. Une fois rétabli, Nathalie et moi allons randonner dans les Rocheuses. Et on fait un road trip dans le Montana, l'état américain limitrophe de l'Alberta. J'en prends plein les mirettes dans le Glacier National Park. Pour repartir de Calgary, je confectionne l'un des panneaux les plus originaux de ma carrière d'autostoppeur. J'écris Medicine Hat et Moose Jaw. Ce sont des noms de villes qui signifient respectivement « coiffe de sorcier » et « mâchoire d'élan ». Un automobiliste klaxonne depuis la station-service adjacente. Je vais le voir, pensant qu'il peut m'avancer un peu. Il me tend 5 billets de 20 dollars, l'équivalent de 70 euros. Je suis d'autant plus surpris qu'il ne me pose aucune question. Je le remercie, mais refuse, en lui expliquant que je cherche un covoiturage, je n'ai pas besoin d'argent. Je repars avec un jeune homme de 18 ans qui attendait depuis longtemps l'occasion d'aider un autostoppeur. La maturité de Calvin m'impressionne. Il offre régulièrement à manger aux sans-abri. Pour le dernier trajet de la journée, je roule avec Tim. Je lui demande si je peux installer ma tente dans son jardin pour la nuit. Il accepte. Le lendemain, je repars en Porsche. À Regina, je suis hébergé par trois Iraniens contactés au préalable via un site internet d'aide à l'hébergement. Alireza, Parvin et Nima m'accueillent comme si on était de vieux amis. Parvin cuisine un plat traditionnel de leur pays et Alireza va jusqu'à me laisser son lit pour s'installer sur le canapé. J'ai beau lui dire que le sofa me convient, il insiste pour que je passe la nuit dans sa chambre. L'hospitalité à l'iranienne fait chaud au cœur. Mes nouveaux amis me font découvrir la capitale du Saskatchewan. On se rend au Parlement, devant lequel se trouve la statue équestre d'Elizabeth II. Et oui, la reine d'Angleterre est aussi reine du Canada.
Regime, it made you a monster.
je visite le musée national avec ses dinosaures et son exposition consacrée aux Amérindiens. J'accompagne Ali Reza à la médiathèque municipale. Je suis surpris de voir que l'on peut y emprunter des instruments de musique, voire enregistrer une chanson dans un studio avec un ingénieur du son à demeure. Plutôt moderne la médiathèque. Depuis Regina, je fais une excursion à Strasbourg, située à 80 km de là. Étant moi-même alsacien, je ne peux m'empêcher d'aller faire un tour dans cette petite bourgade de 750 habitants, fondée en 1907 par des immigrés venus de ma région. Je visite le musée de la ville et rencontre la responsable de l'administration municipale. Je lui demande si je peux voir les archives de Strasbourg et notamment le plus vieux document conservé. Je finis par avoir entre les mains le premier registre de délibération du conseil municipal datant du début du XXe siècle. La dame me dit qu'il y a tous les ans au moins un Alsacien qui vient jusqu'à Strasbourg par curiosité. Mais je suis le tout premier qui demande en plus à consulter les archives municipales. Je rejoins la ville de Brandon en deux trajets d'autostop. Le premier avec Louise, une dame adorable au long passé de toxicomane. Le second avec Dave, un DJ spécialisé dans l'animation des mariages. Il m'invite à dîner en cours de route et me dépose à Brandon. Là, je passe deux jours chez Wes et Bridget. Ensemble, on se fait une soirée musicale sous leur porche. Bridget à la viole, Wes et un de ses amis à la mandoline et moi à la guitare acoustique. On interprète des classiques de la musique populaire américaine. Glendale train this morning at 9:30. Somebody robbed the Glendale train, and I swear I ain't lying. They may clean off with 60. Le matin de mon départ pour Winnipeg, Bridget me dit qu'ils vont à un mariage et me propose de les y accompagner. Je suis surpris. Je trouve cette proposition originale. Je lui fais remarquer que je ne connais pas les mariés. Elle me dit que le neveu de Wes est très sympa et que toute la famille est accueillante. J'interpelle Wes sur la proposition de sa femme et il me dit qu'elle a bien fait. Je suis le bienvenu. Je finis par accepter cette proposition en voyant un signe dans le fait que c'est un animateur de mariage qui m'a déposé chez eux deux jours plus tôt. C'est parti. Une minute avant le début de la cérémonie, Bridget me présente le marié. Il n'a pas été préalablement prévenu de ma venue. Il n'empêche qu'il me souhaite la bienvenue tout sourire. Cette réaction spontanée me touche. Qui est capable d'autant d'ouverture et de bienveillance en voyant un inconnu débarquer à son mariage ? Les jours suivants, je suis à Winnipeg, capitale du Manitoba. Je suis hébergé chez Donna. Elle accueille des enfants retirés de la garde de leurs parents dysfonctionnels. Je constate qu'elle s'occupe d'eux avec beaucoup d'amour. Lorsque je repars de chez elle, Donna me remet une tablette de chocolat pour la route. Je me dirige vers le sud, direction les USA. En plein milieu de ma traversée du Canada, j'ai décidé de faire un crochet américain. Il me semble qu'entre Winnipeg et Toronto, la route sera plus intéressante de l'autre côté de la frontière. Et puis mon visa de 3 mois est encore valide quelques semaines. Autant en profiter. C'est pourquoi de Winnipeg, je lève le pouce vers le sud pour atteindre le Dakota du Nord. Au bout de 2 trajets, je reçois un SMS de Donna. Elle me dit d'ouvrir la tablette de chocolat et précise qu'elle contient un cadeau pour m'aider à poursuivre ma route. Je découvre avec surprise 4 billets de $20 canadiens. Donna savait que je n'aurais jamais accepté cette tablette si j'avais su ce qu'elle contenait. Aussi a-t-elle trouvé ce stratagème pour me faire ce don généreux malgré moi. Je suis extrêmement touché par sa bonté. J'essaierai de faire le meilleur usage de cet argent et, à mon retour, j'enverrai mon livre témoignage à Donna pour la remercier. Je me présente à la frontière américaine à Emerson avec Andrew. Lorsque le douanier découvre mon passeport français, il veut savoir d'où nous nous connaissons. Je lui dis que je me déplace en autostop et que j'ai rencontré mon chauffeur il y a 5 minutes. Cette réponse ne le fait pas du tout rire, au contraire, elle l'inquiète. Il passe les 10 minutes suivantes à me cuisiner. Pourquoi je me rends aux USA? Ai-je de l'argent? Ai-je une carte de crédit? Pendant quelle durée je souhaite voyager sur le territoire américain? Etc. Finalement, comme j'ai réponse à tout, on peut passer. C'est parti pour 2 semaines aux USA. Je vous raconterai les aventures de cette escapade américaine le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien et levez le pouce.
Vous avez écouté Chronique d'un autostoppeur, mon tour du monde en 15 fois 15 minutes. Émission de voyage présentée par Jérémy Fischer, écrivain biographe. Pour commander son livre Journal d'un autostoppeur sur les routes du monde ou prendre connaissance de ses services de conférencier ou d'accompagnement pour l'écriture de votre récit de vie, rendez-vous sur www.desracinesalapage.fr et sur sa page Facebook Des Racines à la Page. Retrouvez tous les épisodes de cette émission en réécoute sur radio-calade.fr. À bientôt pour de nouvelles aventures.